Venez tout juste de vous joindre à nous. Je vous signale que vous êtes à l'écoute d'une émission de 2 heures portant sur la passion et la mort de Jésus, selon l'évangéliste Marc. Mon nom, c'est Claude Julien. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. Francine Robert, si vous le voulez bien, maintenant, nous allons écouter Violaine Paradis, qui vous fait lecture du récit de l'arrestation de Jésus.
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une bande armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi !» et il l'embrassa. Les autres lui mirent la main dessus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara
« Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. »
Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On le saisit, mais lui, lâchant le drap, se sauva tout nu.
C'est un récit assez sobre, hein, comme vous le voyez. Il y a peu de paroles de Jésus sur, par exemple, l'utilisation de l'épée. Jésus ne guérit pas l'oreille coupée non plus, ça c'est dans Luc. Évidemment, ceux qui viennent l'arrêter ne vont pas tous tomber par terre comme si Jésus était tout puissant, ça c'est dans Jean. Ce que nous avons finalement dans Marc, c'est l'aboutissement de ce dont nous parlions tantôt, le cheminement des disciples qui s'enfoncent dans l'incompréhension, qui ont suivi jusque-là, mais qui ne peuvent plus suivre maintenant. C'est vraiment l'aboutissement logique de leur résistance aux annonces de la Passion.
Dans l'Évangile de Marc, 3 annonces, hein, où Jésus annonce qu'il va mourir et puis qu'il va ressusciter, et là, c'est toujours suivi d'une incompréhension de ses disciples.
Absolument. Ça se gâte d'annonce en annonce, plus ça va, moins ils comprennent. Alors, ça conduit finalement à une présentation d'un Jésus qui est complètement isolé et abandonné par tous, une sorte de messie dont plus personne ne veut, en fin de compte.
C'est un messie qui ne correspond pas à l'image que l'on se faisait du messie.
Exactement. Mm-hmm. Et il y a dans Marc cette image tout à fait originale, qui n'est reprise par aucun autre évangéliste, du jeune homme qui sauve tout nu.
C'est bizarre.
Ah oui, moi si j'étais en tout cas réalisateur et que je faisais un film, ça c'est certainement, je trouve, une des images les plus frappantes. Ça a été commenté par certains spécialistes comme étant une sorte de détail autobiographique, par exemple. Ce serait Marc lui-même qui aurait été là. Bon, on peut faire cette hypothèse-là, mais on a toujours plus de chances de se demander est-ce que c'est pas là pour exprimer un surplus de signification. Faut jamais perdre de vue que l'écriture d'un évangile est un acte de communication. C'est pas un récit autobiographique. Alors, si Marc le met, en supposant même que ça lui soit arrivé, s'il le met, c'est parce qu'il y a quelque chose à dire avec ça.
Donc, il y aurait une signification particulière.
Oui. Une des plus évidentes et qui me parle beaucoup à moi, c'est le fait que les disciples doivent tout perdre finalement. Ils vont être dépouillés de tout. Alors, ce jeune homme qui finalement s'enfuit tout nu, il a tout perdu. On pourrait dire qu'ils s'attendent à un certain type de Messie, ils font des projets sur ce Messie-là, ils s'attendent à partager sa gloire, par exemple, à être assis à sa droite et à sa gauche dans la gloire. Vous voyez, ça c'est la réaction de Jacques et Jean à la troisième annonce de la Passion. On voit que Jésus parle de souffrance et d'échec, eux parlent de gloire.
Immédiatement après, effectivement.
Donc, ils devront perdre leurs projets, leurs attentes, leurs espoirs, leurs illusions sur Jésus, sur le Messie et sur eux-mêmes comme disciples de ce Messie. Alors, le fait que ce jeune homme s'enfuit tout nu, finalement, peut refléter...
Le dépouillement, il est complètement dépouillé,
tout à fait. Ça, c'est une manière assez fréquente de le commenter que j'aime bien. Une autre façon de le commenter, c'est par l'observation du vocabulaire. C'est très intéressant aussi. D'abord, il s'agit d'un jeune homme ici. On parle d'un néaniskos, si on veut mettre le mot grec. Il y a un seul autre endroit chez Marc où il est question d'un jeune homme avec ce même mot. Et ça n'est pas le jeune homme riche, non, parce que chez Marc, c'est pas un jeune homme. C'est ce que on appelle trop spontanément l'ange au tombeau. C'est pas un ange au tombeau vide, chez Marc, c'est un jeune homme. C'est le même mot, là. Et donc, c'est tout près, puisque ici, on est à la fin du chapitre 14. Le tombeau vide, c'est au début du chapitre 16. Alors, les femmes entrées dans le tombeau voient assis un jeune homme.
Le mot grec, le néaniskos, ne revient que deux fois dans l'œuvre de Marc, ici et au tombeau.
Intéressant, alors, ça. Encore plus intéressant, ce jeune homme est présenté comme étant vêtu ou enveloppé d'une robe blanche. C'est le même verbe être vêtu pour notre jeune homme de la scène de l'arrestation qui est enveloppé ou vêtu d'un drap. Il y a d'autres mots pour dire vêtu. Troisième rapprochement de vocabulaire, le drap, on traduit vêtu d'un drap. Ce qui revêt le jeune homme à l'arrestation, c'est un syndon qui peut être traduit linceul. Et c'est le mot que nous allons trouver à la fin du récit de la mort de Jésus. Lorsqu'il est descendu de croix et mis au tombeau, il est placé dans un linceul. Aux deux endroits, le mot est répété deux fois. Et on ne le trouve pas ailleurs non plus dans Marc. Donc, vous voyez, ça suggère une sorte de résonance entre cette scène du jeune qui s'enfuit à l'arrestation et la scène de Jésus au tombeau et puis Jésus n'étant plus au tombeau. Il y a une résonance. Est-ce que on pourrait dire le jeune homme, c'est un petit peu comme Jésus, on peut plus mettre la main sur lui, finalement, n'est plus là. Il n'est plus dans ce linceul, il est ailleurs. Et à ce moment-là, la nudité pourrait représenter... une sorte de nouvelle naissance, c'est-à-dire de résurrection. C'est d'ailleurs notre lectrice Violaine qui me disait, ça lui faisait penser à une naissance, justement. On pourrait dire aussi, il évoque, ce jeune homme, les disciples tels qu'ils seront eux-mêmes après avoir vécu les expériences de la révélation que Jésus a ressuscité, c'est-à-dire c'est eux qui devront faire comme le jeune homme, désigner le tombeau vide et dire « Le crucifié, il est ressuscité. » Ça, c'est la parole des chrétiens, finalement. Mais pas des chrétiens qui n'ont pas passé d'abord par la mort. Vous voyez, alors ce jeune homme qui est enveloppé dans un linceul, qui doit tout perdre et passer par la mort pour finalement renaître à une vie nouvelle, être, on pourrait dire, même une figure du baptême. Hein. Le baptême adulte se faisait comme ça.
On revêtait les nouveaux baptisés d'une robe blanche.
Oui, après les avoir dépouillés complètement.
Ils dépouillaient complètement de leurs vêtements, ils étaient plongés et ils revêtaient à l'autre côté de la piscine le vêtement blanc.
Tout à fait. Mmh. Et Paul dit bien qu'on est plongé dans la mort avec le Christ quand on est baptisé. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de consonances intéressantes ici. Ça me paraît être assez conséquent avec ce que Marc essaie de nous présenter, c'est-à-dire un cheminement par lequel nous, on doit passer, ce dépouillement, cette nudité qui évoque la fragilité aussi, entrer dans une certaine mort, moyennant quoi on retrouve autre chose, cette vie nouvelle qui permet ensuite de désigner le crucifié comme étant le ressuscité, ce que le jeune homme fait au tombeau.
Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis, il sortit dans le vestibule. La servante, l'ayant vu, recommença à dire à ceux qui se trouvaient là « En voilà un qui est des leurs. » De nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux qui étaient là lui disaient « Sûrement tu en es. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors, il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus. « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il éclata en sanglots.
Vous venez d'entendre le récit du reniement de Pierre. Peut-être les personnes un peu familières avec les évangiles peuvent se poser la question, mais alors le procès. Vous comprendrez qu'il faut malheureusement faire des choix. Alors nous avons jugé bon de ne pas commenter les deux procès, c'est-à-dire celui devant les grands prêtres et l'autre en présence de Pilate. Nous n'aurons pas le temps de les commenter. Francine Robert, comment on regarde ça?
Ouais, c'est là aussi l'aboutissement, on pourrait dire, le second aboutissement du cheminement difficile des disciples. Dans l'évangile de Marc, ce récit est le plus long qui concerne Pierre. Il n'y a pas vraiment d'endroit dans l'évangile de Marc où Pierre a un beau rôle du genre « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église » ou « Marcher sur l'eau » ou tout ça, c'est dans Matthieu. Pierre, dans Marc, est présenté comme quelqu'un de toute bonne foi, hein, ça c'est sûr. Mais c'était prévu et c'était pas prévu parce que c'était écrit.
Voilà, si on lit bien Marc, c'est l'aboutissement normal, si on peut dire. Ça pouvait pas finir autrement.
Voilà.
Que ça.
La résistance de Pierre, nous l'avons vu dès le chapitre 8. Lorsque Pierre dit à Jésus « Tu es le Christ », on pourrait déjà dire que Pierre entre en tentation, vous voyez, parce qu'il s'engage sur une pente glissante qui est la pente de la gloire et de la puissance de l'envoyé de Dieu. Et c'est pourquoi, dès que Jésus commence à annoncer sa passion, Pierre va la refuser. Et vous voyez, Jésus a rabroué Pierre. C'est un verbe pas très fréquent en français, rabroué. C'est le verbe que Marc a utilisé quand Jésus a rabroué les esprits mauvais qui le connaissaient. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que Pierre, ici, va nier connaître Jésus. Or, les seuls autres personnages qui sont présentés comme connaissant Jésus, ce sont effectivement les esprits impurs qui en ont plein la bouche des « tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu ».
Vous avez raison. Il identifie Jésus comme le puissant, le Saint
de
Dieu.
Le Fils de Dieu, tout à fait.
Et à chaque fois, Jésus va les rabrouer.
Oui, pour les faire taire.
De même qu'il va rabrouer Pierre quand Pierre va lui dire « toi, ça t'arrivera pas ».
Oui, quand Pierre va refuser la passion.
Bon.
Et alors, bon, on dit souvent, oui, mais c'est pour pas que les esprits mauvais disent qu'il est avant le temps. J'ai toujours trouvé que cette explication un peu courte, personnellement. Je pense que ça signifie assez clairement chez Marc que on peut très bien employer les bons mots de la profession de foi et pas savoir ce qu'on dit. Pire encore, les employer et mettre dans ces mots une signification qui est à l'opposé de ce qu'ils veulent dire, vraiment. Et donc, on peut avoir plein la bouche des fils de Dieu, des saints de Dieu, ou comme Pierre, tu es le Christ, et se tromper complètement sur la chose.
Des Alors, expressions qui peuvent être synonymes de puissance humaine.
Exactement. Hein, et pire, de puissance divine.
Et pire encore, vous avez raison.
C'était des mots.
Bon,
oui.
Ben écoutez, Francine Robert, ça veut dire que si... Quand Pierre dit « Je ne connais pas cet homme voilà. », il a raison.
Il a raison.
Il ne connaît pas cet homme. C'est pas ça la vision qu'il avait du Messie.
Tout à fait. Alors, il croyait bien qu'il le connaissait, mais il se rend compte que cet homme qui s'est laissé arrêter, qui s'est laissé emmener comme un bandit, effectivement, ça n'est pas son Messie. C'est sûr qu'on met beaucoup l'accent sur le fait que Pierre renie par crainte d'être arrêté lui aussi avec Jésus.
Ça peut faire partie des motivations, mais à mon avis, on surévalue
cette motivation-là.
C'est ça. Alors, en somme, Pierre, ce qu'il dit, c'est qu'en celui qu'on vient d'arrêter, là, je ne reconnais pas le Messie que je m'attendais à voir et à servir.
Voilà.
Je ne suis pas avec lui.
Il ne va pas le suivre dans l'abaissement et dans l'échec. Il était prêt à le suivre dans l'avènement du règne de Dieu dont le Messie est l'instrument. Mais l'avènement du règne de Dieu, ça se passe pas comme ça. Pour lui, là, on n'est pas dans le bon scénario du tout. En même temps, c'est sûr que Pierre est attaché à Jésus, il est ambivalent, donc il faut pas non plus pousser le balancier trop loin dans l'autre direction. La façon dont Marc présente la fin de la scène contribue à nous rendre Pierre sympathique. Hein? Il entend le chant du coq, il se souvient que Jésus lui avait dit qu'il ferait cela. Il doit se souvenir aussi qu'il avait dit non, 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 deux fois plutôt qu'une d'ailleurs, et il pleure.
Un début de conversion, si on peut employer des termes qu'on...
Une sorte de prise de conscience.
C'est le début de son cheminement.
Et en même temps, ça laisse entier le problème de sa vision du Messie. Autrement dit, il peut être profondément chagriné d'avoir laissé tomber cet homme qui l'a suivi. Mais Pierre, en tout cas, ne sera pas à la croix. Il y a un chemin qui n'est pas fait. On est toujours dans la logique de l'évangile de Marc. Il y a certainement une tristesse. Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à changer son idée du Messie? C'est une autre affaire.
Chose certaine, c'est qu'il est dans un état de faiblesse.
Oui, et c'est peut-être comme ça qu'on peut progresser.